C'est le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils sont 2 700 000 à devoir obligatoirement se faire vacciner d'ici à mercredi. Dernière chance pour les soignants réfractaires ou hésitants. Soignants, mais pas seulement, vous l'entendrez, d'autres personnels sont aussi concernés à l'hôpital. Marine Le Pen lance sa campagne 2022 et du même coup la compétition avec Éric Zemmour. Retour sur un week-end d'échange à distance avec le polémiste. Dans ce journal aussi, l'impact des biocarburants sur la hausse des prix agricoles. Et avant les journées du patrimoine ce week-end, série France Inter aux côtés des artisans de Notre-Dame de Paris. Rencontre ce matin avec un jeune cordiste. C'est par ce chantier qu'il est venu au métier.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50. Aujourd'hui, la réalisatrice et scénariste Audrey Diwan. Son film L'Événement a remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise.
France Inter.
Ils ont moins de 48 heures, Alexis, maintenant, pour se faire piquer.
Et tous les soignants doivent avoir reçu au moins une première dose de vaccin anti-Covid d'ici à mercredi, sous peine d'être suspendus. Au dernier pointage, la semaine dernière, 88% d'entre eux étaient au moins primo-vaccinés. La mesure entre donc en vigueur après-demain dans les hôpitaux publics, privés ou encore les EHPAD. Mais quand on dit soignants, c'est assez réducteur, en fait, car on parle, en réalité, de tous les personnels de ces établissements. Alors, qui est concerné précisément, Véronique Julia ?
Tous les personnels, ça englobe beaucoup de monde. Outre les soignants, ça va du serrurier à l'administratif, en passant par l'informaticien sur place ou en télétravail. Sont concernés aussi les intérimaires et les prestataires réguliers, explique Amélie Roux. Elle est responsable du pôle ressources humaines à la Fédération hospitalière de France.
Un intervenant extérieur, par exemple pour des travaux, un peintre, un bâtiment qui intervient de façon planifiée et régulière sur un temps échelonné dans l'établissement, va être concerné par l'obligation vaccinale.
Les personnels ont eu déjà plusieurs semaines pour faire état de leur statut vaccinal auprès de leur direction. Attestation de vaccin, certificat de rétablissement pour une infection récente ou éventuellement certificat de contre-indication. Mais celles-ci sont rares et définies très précisément par la Haute Autorité de Santé. À ce jour, tout le monde n'a pas encore produit le document requis. Ce 15 septembre, la direction devra savoir et là, le couperet va tomber.
Alors, la loi prévoit qu'il soit suspendu sans délai. Au titre de cette suspension, il n'est pas rémunéré.
Précision importante, rien ne sera définitivement figé.
C'est quelque chose qui est réversible. Sitôt qu'il est vacciné et qu'il remplit les critères de l'obligation vaccinale, il est réintégré.
Et l'employeur pourra tenter de convaincre encore.
En pratique, la loi prévoit également l'organisation d'entretiens et ces entretiens sont faits aussi pour que l'agent puisse régulariser ses situations.
Au 15 octobre, ce n'est pas une dose mais les deux doses qu'il faudra avoir reçues pour éviter d'éventuels abus. L'assurance maladie s'apprête à renforcer les contrôles sur les arrêts maladie.
Et en dehors de l'hôpital, cette obligation vaccinale s'applique aussi aux soignants libéraux, aux aides à domicile ou encore aux pompiers et ambulanciers. Au total, donc 2 700 000 personnes concernées. Eux en sont déjà à la troisième dose. C'est aujourd'hui que commence la campagne de rappel pour les résidents des EHPAD. Elle doit s'achever en octobre. La crise sanitaire qui avait conduit à reporter la rentrée scolaire aux Antilles et dans une partie de la Guyane, eh bien c'est aujourd'hui que les écoliers sont de retour en classe, mais de manière très progressive, par petits groupes et seulement quelques heures par semaine pour l'instant. Dans l'Hexagone, déjà 3000 classes fermées pour cas Covid, annonce ce matin Jean-Michel Blanquer dans Le Parisien. C'était 500 il y a une semaine, mais cela ne représente que 0,5% du total selon le ministre de l'Éducation.
Quant au pass sanitaire, il est 7h33, il continue de s'étendre en Europe.
Non sans mal, par endroits, c'est le cas tout près de chez nous, en Suisse. La Suisse qui a longtemps hésité avant de s'y résoudre. Finalement, le pass sanitaire version helvétique entre en vigueur aujourd'hui dans quasiment tous les lieux publics. Car les chiffres de la pandémie et de la vaccination ne sont pas très bons dans le pays, Jérémy Lanche.
En généralisant ce qu'on appelle ici le certificat Covid, les autorités suisses opèrent un virage à 180 degrés. Elles qui ne voulaient pas, il y a encore quelques semaines, entendre parler de son extension. Si la plupart des partis se sont rangés à l'avis du gouvernement, ce n'est pas le cas de la puissante droite nationaliste de l'UDC. La mesure est également accueillie fraîchement par les milieux économiques, surtout par les restaurateurs. Le patron du syndicat majoritaire dans le canton de Vaud, Gilles Mestre, estime que le certificat Covid va plomber un peu plus la profession.
Certains nous disent ça va vous permettre d'accueillir de nouveaux clients qui jusqu'ici étaient plutôt frileux, n'osaient plus venir dans les restaurants. J'ai eu plusieurs appels de restaurateurs qui me disent moi j'ai une avalanche d'annulations parce que ces clients ne veulent pas ou ne sont pas encore vaccinés.
Le problème c'est que tous les signaux sont dans le rouge. Le nombre de nouveaux cas, il explose, surtout chez les plus jeunes. Le nombre d'hospitalisations, environ 70 par jour, dont un tiers qui vont directement en soins intensifs. Quant à la vaccination, elle patine avec 40% de la population population qui n'a reçu aucune dose. C'est plus que dans n'importe quel pays d'Europe de l'Ouest. L'extension du certificat Covid a en tout cas déjà produit ses premiers résultats avec une saturation des centrales d'appel pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Genève Germilange, France Inter.
C'était il y a 3 ans, une tempête politique au cœur de l'été, l'Assemblée nationale paralysée. L'affaire Benalla se retrouve à partir d'aujourd'hui devant la justice. Alexandre Benalla comparaît à Paris avec 3 autres co-prévenus, notamment pour les violences du 1er mai 2018, place de la Contrescarpe. Chargé de mission à l'Élysée à l'époque, il avait été filmé muni d'un casque des forces de l'ordre en train de brutaliser des manifestants. Ce procès doit durer 3 semaines. Édouard Philippe ne fera pas faux bond à Emmanuel Macron pour la présidentielle. L'ancien Premier ministre promet son soutien complet au chef de l'État s'il se représente. C'est de la loyauté, de la cohérence, explique le maire du Havre. 2022, il en a été question tout le week-end, avec à gauche la déclaration de candidature d'Anne Hidalgo. On va y revenir avec Thomas Legrand dans quelques instants. La maire de Paris sera l'invitée d'Inter à 8h20. Au Rassemblement National, Marine Le Pen a lancé, elle, sa campagne à Fréjus, avec Éric Zemmour en embuscade. Pas encore déclaré, le polémiste distille ses premières propositions. Alors, forcé de réagir, la candidate du RN ne compte pas se laisser déborder sur sa droite, Élodie Forêt.
Pas une seule fois hier, lors de son discours, Marine Le Pen n'aura prononcé le nom d'Éric Zemmour. Mais la candidate a multiplié les clins d'œil. « Nous sommes à la croisée des chemins », a-t-elle lancé, reprenant un slogan du polémiste et ses théories.
« Il n'y aura que 2 alternatives, soit la dilution de la France par déconstruction et submersion, soit le sursaut salutaire qui fera entrer la France dans le 3e millénaire autour de l'idée de nation. »
Marine Le Pen qui, pour contrer la concurrence, revendique son histoire, 40 ans de combat du FN puis du RN sur les sujets migratoires. Interrogée hier soir sur TF1, elle met aussi en doute le sérieux des propositions d'Éric Zemmour, comme l'interdiction de certains prénoms non français.
La question n'est pas d'être le plus radical, la question c'est d'être le plus efficace. Ça ne sert à rien de s'attaquer, si vous voulez, aux conséquences si on ne s'attaque pas aux causes.
Et pour s'attaquer aux causes, Marine Le Pen présentera début octobre un projet de loi sur l'immigration qu'elle veut soumettre au référendum, dans une tentative d'occuper l'espace pour ne pas laisser Éric Zemmour prospérer.
Élodie Forêt, service politique d'Inter. Quant aux écologistes, ils ont franchi ce week-end la barre des 100 000 votants inscrits pour leur primaire. Primaire qui commence ce jeudi. Et ce qui suit pourrait bien être un sujet de campagne chez les Verts. Les biocarburants et leur impact sur les prix agricoles. Ces derniers mois, les prix du sucre, du blé, du soja, du maïs ou encore de l'huile de palme s'envolent. Ça se ressent d'ailleurs en magasin. Bien sûr, la crise sanitaire a fait exploser le coût des matières premières. Mais une partie de cette hausse s'explique aussi par la production croissante des biocarburants, Manuel Ruffez.
En 20 ans, la production mondiale de biocarburants a été multipliée par 9. Elle répond à des injonctions sociétales et à des politiques environnementales. Mais dans un monde où la demande de denrées alimentaires est en hausse constante, où les terres sont de plus en plus rares et les rendements stagnent, la question se pose de ces terres agricoles consacrées à la production énergétique. Olivier Mével, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Bretagne occidentale.
Tout comme on a eu cette hausse des prix, ce choc finalement des matières premières alimentaires en 2007-2008, on s'avance vers un second choc. Et c'est ce second choc qui pose problème et qui aujourd'hui amène à se poser la question de savoir quelle est la part de responsabilité des biocarburants dans la hausse continue des matières premières agricoles que l'on connaît actuellement.
Le secteur de l'agroalimentaire évidemment s'inquiète et Olivier Mével ne voit une sortie de crise que d'ici quelques années.
La question, c'est de se dire, est-ce que les biocarburants à long terme vont continuer à augmenter comme ça? Moi, je tape plutôt sur un ralentissement à l'horizon 2029. On a aussi peut-être mangé notre pain noir dans le sens où aujourd'hui l'électrification du parc automobile est un allié pour essayer de décongestionner cette hausse des prix.
En attendant, aux États-Unis, les industriels de l'agroalimentaire craignent des pénuries d'huile végétale d'ici la fin de l'année.
Manuel Ruffez, objectif 600 millions de dollars pour éviter la crise humanitaire en Afghanistan. L'ONU convoque aujourd'hui une conférence internationale à Genève. Les Nations Unies veulent lever des fonds en urgence car depuis le retour au pouvoir des talibans, de nombreux donateurs étrangers se sont retirés du pays. Avant même la prise de Kaboul, la moitié de la population afghane dépendait de l'aide humanitaire. Trop de pression peut-être pour Novak Djokovic. Le tennisman serbe n'a pas réussi l'exploit de remporter tous les tournois du Grand Chelem en une année. Défaite hier soir à l'US Open en 3-7 face à Daniil Medvedev. Le russe qui remporte lui son premier tournoi majeur.
Et rendez-vous à Notre-Dame de Paris pour les journées du patrimoine ce week-end.
Oui, sur le parvis de la cathédrale en tout cas. Les artisans qui reconstruisent Notre-Dame vous attendent pour mettre en avant leur métier. Charpentier, restaurateur de sculptures, échafaudeur. C'est l'objectif de l'établissement public, mettre en avant ces métiers et susciter aussi des vocations. C'est déjà le cas d'ailleurs, comme pour ce jeune cordiste d'à peine 20 ans que Rémi Brancato a rencontré sur le toit de Notre-Dame.
Il est comme chez lui, sur le toit de Notre-Dame. Tristan Dussert, 20 ans, nous emmène en ascenseur sur l'échafaudage. Il a pris l'habitude d'intervenir ici, par exemple pour inspecter l'état des voûtes endommagées.
On arrive avec notre harnais, on s'arnache et on se suspend au-dessus des voûtes. Et après on descend, on vient poser nos capteurs, tout ça en travaillant suspendu, sans toucher les voûtes.
Les cordistes interviennent partout où les autres ne peuvent aller, un métier que Tristan ne connaissait pas il y a un an et demi. Il l'a découvert dans un documentaire sur le chantier de Notre-Dame au printemps 2020.
Je venais de terminer mes études et je savais pas quoi faire. J'allume la télé, je traîne sur les réseaux sociaux et je tombe sur une vidéo qui présente le groupe Jarnias. Et je me suis dit, je veux faire ça de ma vie. Moi, mon rêve, c'était de venir à la cathédrale. Et je me suis donné tous les moyens pour y arriver.
En 5 semaines, il se forme à Grenoble et monte à Paris. Très vite, l'entreprise Jarnias l'embauche. Tristan travaille désormais avec Grégory Vacheron, qui l'avait séduit à la télé.
J'espère que ce discours sera entendu par d'autres et puisse susciter d'autres vocations et d'autres passions.
Un métier exigeant, mais Tristan est déjà passionné.
Il faut savoir faire énormément de choses. De la maçonnerie, de la couverture, tout ça en étant suspendu sur une corde. Moi qui viens de la montagne, j'adore la hauteur. Un jeune de 19 ans qui arrive sur un chantier comme ça, faut le faire quand même.
Grégory, lui, espère amplifier cet effet Notre-Dame auprès des jeunes.
Rémi Brancato pour ce reportage à Notre-Dame. Et ce n'est pas fini, pour découvrir d'autres métiers sur ce chantier exceptionnel, rendez-vous toute la semaine dans le 13-14 de Bruno Duvic et en images dès maintenant sur franceinter.fr.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.